Donc vous avez bien fait d'insister sur le fait que quand même la Turquie est le seul pays qui a été lié à l'Union européenne par un accord enfin d'union douanière pendant depuis 1996, c'est-à-dire depuis 12 ans, ce qui n'est encore jamais arrivé. Et donc je me tourne vers M. Serventi. Est-ce qu'on demande plus à la Turquie qu'aux autres pays, comme semblait le dire Mme Gürakan?
Oui, je remercie Madame Bonzon. Je remercie les organisateurs aussi de m'avoir invité à participer à cette conférence. Je crois qu'on s'était trouvé avec M. Billon dans la même salle à peu près il y a 9 ans avec le vice-premier ministre de l'époque, M. Yılmaz, qui était chargé à l'époque des relations avec l'Union européenne. Et on avait abordé certains des problèmes qu'on aborde encore aujourd'hui, en particulier la question de Chypre. Alors, est-ce qu'on demande plus à la Turquie qu'aux autres pays candidats? Bon, la Turquie, c'est vrai, est en association depuis 1963, mais il faut savoir qu'au début, la Turquie ne voulait pas tellement d'union douanière. Hein. L'union douanière est venue plus tard. Et c'est vrai qu'aussi, quand la Grèce ou l'Espagne ou le Portugal sont entrés dans la communauté européenne, on n'est pas allé vérifier s'ils avaient complètement éradiqué le fascisme qu'ils avaient vécu pendant les années précédentes. Ce qui s'est passé, c'est, maintenant on va le fêter dans les semaines qui viennent, il y a eu en 89 la chute du mur de Berlin, il y a eu le processus de démocratisation des pays d'Europe centrale et orientale, et le seul endroit où il reste encore un mur en Europe, c'est à Nicosie. Alors cette question-là, c'est une question qui est quand même assez importante. J'étais à Strasbourg il y a 2 jours. Le Parlement européen préparait une réunion conjointe avec le Parlement turc. C'est la seule question dont on est traité. Alors, après, les gens vous disent, hier, je faisais une petite conférence dans une maison de l'Europe, au Vésiné, sur l'élargissement en principe, mais tout de suite, les gens reviennent dire, sur la Turquie, c'est un grand pays. Je dis, oui, c'est un grand pays. Alors, un grand pays a plus de problèmes, peut-être, que des petits pays. Et quand on parle du processus de négociation maintenant, c'est vrai que, bon, au départ, et ça je voudrais le rappeler, en 2004-2005, quand même tous les gouvernements des 25 États membres, il n'y avait pas encore la Roumanie et la Bulgarie, ont donné leur accord pour l'ouverture des négociations. Le processus de négociation, ce n'est pas un processus de négociation entre la Commission européenne ou le Conseil européen et le pays candidat, c'est un processus de négociation entre tous les États membres et le pays candidat. Donc à chaque étape, il y a 35 chapitres. Pour chaque chapitre, il faut qu'il y ait une unanimité pour l'ouverture du chapitre, une unanimité pour la fermeture du chapitre. Jusqu'à présent, bon, il y a, comme Mme Gürakan l'a indiqué, il y a un certain nombre de chapitres que l'on a bloqués en 2006, parce que la Turquie n'a pas accepté de ratifier le protocole à l'accord d'association, à l'accord d'Ankara, qui prévoyait l'extension de cet accord à tous les États membres. Bon.
Vous pouvez dire concrètement ce que c'est que le protocole d'Ankara? C'est l'autorisation pour les navires.
L'accord d'Ankara, là, c'est l'accord d'association. C'est l'accord qui règle toutes nos relations depuis 1963 avec des protocoles additionnels qui ont étendu à l'union douanière. Le protocole qui était prévu, qui a été signé en 2005, prévoyait l'extension de cet accord aux nouveaux États membres qui avaient adhéré en 2004, donc les 10 pays qui avaient adhéré, y compris la République de Chypre, ce qui voulait dire que la Turquie devait mettre en œuvre, vis-à-vis de la République de Chypre, l'union douanière, accepter que les bateaux chypriotes puissent venir dans les ports turcs ou que les avions chypriotes puissent atterrir en territoire turc. Ce protocole n'a pas été ratifié. Alors, il y a actuellement en cours des négociations entre les deux communautés, entre la République de Chypre et la communauté chypriote turque, et nous espérons que ces négociations pourront aboutir. Ça bloque un petit peu sur certains problèmes, en particulier problèmes qui sont liés un peu au processus communautaire, à savoir s'il peut y avoir une libre circulation des personnes, libre établissement entre le nord et le sud de l'île. S'il y avait des dérogations permanentes, ça veut dire qu'on mettrait en doute le fonctionnement même des principes communautaires de libre circulation. Et comme vous savez, certains États membres, dans la négociation avec la Turquie même, étaient un peu réticents à la libre circulation des personnes. Mais si on l'empêche à Chypre, ça pose des problèmes pour l'ensemble de la négociation avec la Turquie, certainement. Donc c'est là où il y a un point crucial. C'est pour ça que j'ai rappelé M. Yılmaz, parce que M. Yılmaz, en 2000, nous avait dit « Nous gardons Chypre comme un atout pour assurer notre adhésion à l'Union européenne. » Mais malheureusement, en 2004, la communauté turque a voté pour la réunification, la communauté grecque a voté contre. Alors, curieusement, vous m'aviez aussi demandé de parler un petit peu sur la question de l'impact des dernières élections sur...
Sur le processus. Les élections en France, en Grèce, en Allemagne.
Alors, en Grèce, vous voyez, il y a M. Papandreou qui revenait au pouvoir. M. Papandreou, en 1999, avait été l'artisan du rapprochement avec la Turquie, entre la Grèce et la Turquie. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il n'y a plus Ismail Cem avec lequel il avait négocié.
Et, l'ancien ministre des Affaires étrangères turc.
Oui.
Son grand ami.
Et effectivement, les Grecs m'ont raconté que la première fois que Papandreou était à Ankara, c'est la première fois qu'un ministre turc y allait depuis des années.
Grec.
Un ministre grec y allait depuis des années. Et il s'est trouvé en tête à tête avec Ecevit et Ismail Cem. Et Ecevit leur a dit à Cem et à Papandreou, sur un ton très paternel, très patriarcal, vous pouvez même discuter de la question de Chypre. Mais quelques temps après, je m'occupais à ce moment-là des questions turques. J'étais avec mon commissaire Verheugen à Ankara en juillet, c'est-à-dire 6 mois après la décision de Helsinki. Et quand le commissaire a dit « Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider à trouver une solution sur Chypre ?» Et Ecevit s'est fâché. Il a dit « Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé ?» Et puis il a commencé à parler de ce qui s'était passé avant 1974 d'histoire. Autrement dit, ce que je voulais dire, c'était que on n'a pas pu, à ce moment-là, progresser. Et on a l'impression, quelquefois, en essayant de jouer sur des atouts, de jouer sur le passé, on bloque un petit peu l'avenir. Là, Madame Gürkan a parlé des chapitres qu'on peut ouvrir. Bon, dans la négociation, le chapitre environnement, Inch'Allah, pourra être ouvert d'ici la fin de l'année. Il y a quand même beaucoup de choses à faire en Turquie. Il y a un rapport récent de l'OCDE sur la situation de l'environnement à Istanbul qui montre que pour que la Turquie soit au niveau de la législation communautaire, il faut faire à peu près 60 milliards d'euros d'investissement en matière de gestion des eaux et déchets. Au mois d'avril, nous avions une réunion de la commission mixte avec le comité économique et social à Istanbul. Le ministre Egemen Bağış était là et a dit « Tout ce que vous adopterez, nous essaierons de le mettre en œuvre. » Cette commission a adopté une résolution demandant la modification de la loi sur les syndicats, qui était actuellement une loi qui était adoptée en 1983 et qui est une loi qui est extrêmement restrictive, qui est une loi un peu scélérate en matière sociale. Ce comité a adopté une résolution demandant la modification de la loi sociale. 8 mois sont passés. Bon, il y a toujours, en principe, dans le programme national pour l'adoption de l'acquis, c'est indiqué que ça sera modifié, mais ça n'est toujours pas, pour des raisons, évidemment, de politique interne. Alors, il y a des chapitres qui sont ouverts. On a ouvert le chapitre sur les télécommunications et la société de l'information. Dans ces négociations, on a demandé que soient supprimées les restrictions à l'accès à Internet, qui sont des choses qui ne conviennent pas à une société libre. Ça n'a pas été fait encore. Donc, il y a énormément de choses qui doivent faire. On voit bien que sur le plan interne, bon, il y a l'ouverture kurde, ou l'ouverture en matière de droit qui a été proclamé depuis 2 mois qui est discuté. L'ouverture de télévision en langue kurde, même comme l'a indiqué M. Baruch l'autre jour, en langue arménienne. L'amélioration des relations avec les pays voisins, avec l'Arménie. Et le gouvernement, l'accord a été, je crois, soumis actuellement à la ratification du côté turc. C'est quelque chose d'important. Mais certainement, il y a encore énormément d'efforts à faire sur le plan interne pour pouvoir montrer que l'on négocie sérieusement. Alors, d'autre côté, évidemment, comme vous l'indiquez, comme vous le suggérez, il y a des problèmes d'opinion publique. Est-ce que c'est un problème d'opinion publique ou est-ce que c'est un problème d'attitude des dirigeants? Et vous avez, je crois, Mme Bonzon, publié avec M. Rocard quelque chose, un livre sur l'attitude vis-à-vis de la Turquie qui montre ça. Nous avons une discussion au Parlement européen, ça va revenir encore sur la capacité d'intégration de l'Union européenne. Le parlementaire qui avait préparé un rapport là-dessus est devenu maintenant le ministre des Affaires étrangères de Finlande. Et il dit, l'intégration, c'est une question de volonté politique. La question de l'opinion publique, en réalité, c'est les hommes politiques qui doivent expliquer, qui doivent avoir une vision, qui doivent expliquer l'intérêt pour l'Union européenne d'avoir une intégration de la Turquie dans l'Union. En ce qui concerne la France, je me souviens d'avoir entendu une fois M. Juppé expliquer que l'UMP avait adopté l'attitude allemande à la suite d'une rencontre qu'ils avaient eue dans le cadre du PPE à Lisbonne. Alors, quelquefois, je me demande, est-ce que c'est vraiment une réflexion interne ou bien est-ce que simplement on s'est calqué sur la CDU? Et la CDU, on s'en souvient, en 1997, lors des discussions qui ont eu lieu dans le cadre à ce moment-là du parti des chrétiens démocrates européens, avait défendu l'idée que l'Union européenne a des racines judéo-chrétiennes, donc que la Turquie n'en fait pas partie. Moi, je trouve inquiétant qu'on commence à faire une assimilation entre culture et religion, que ça se retrouve encore, et même récemment dans Le Monde, il y avait un article de professeur Fouché qui, en 2 lignes, disait que c'est une culture différente. Personnellement, je crois que non.
Merci. Donc, merci d'avoir insisté sur le blocage pour Chypre, parce que ça, c'est ce dont tout le monde parle. Là, j'étais à Istanbul encore, et c'est vraiment, on sent l'horloge qui tourne, parce que il y a normalement d'ici décembre, ça devrait être débloqué pour pouvoir aller. Enfin, je crois qu'il y a un petit délai qui a été accordé, mais.
Non, c'est qu'en 2006, on avait demandé à la Commission de revoir les choses d'ici 2009. Dans le rapport que nous avons publié la semaine dernière, on a dit qu'on a revu les choses et qu'effectivement, le protocole à l'accord d'Ankara n'a pas été ratifié. Mais nous n'avons pas dit, mon commissaire n'a pas dit, qu'il fallait interrompre les négociations à ce moment-là. Alors, il y en a certains qui disent ça.
Voilà,
ça a été évoqué, comme je vous dis, au Parlement européen, en particulier par des représentants chypriotes. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a des négociations qui sont en cours dans le cadre des Nations Unies. C'est délicat, puisque c'est quand même pratiquement 35 ans de présence disons, militaire turque à Chypre qui sont en train d'être revues et voir comment on peut trouver une solution. Donc, c'est délicat et les conclusions de ces négociations devraient être soumises à référendum des deux côtés. Ça veut dire que en 2004, il y a eu un référendum aussi et mon commissaire à l'époque, M. Verhoeven, avait été extrêmement fâché parce qu'on lui avait proposé. Il voulait intervenir à la télévision chypriote grecque. On ne lui a pas permis. Il y avait, à ce moment-là, en Grèce, il y avait eu un changement de gouvernement. M. Karamanlis était passé au pouvoir. Il n'y avait pas eu tellement de soutien aussi au résultat de ce processus de négociation. Donc c'est quelque chose qui est très délicat. Nous estimons que ça ne vaut pas la peine maintenant de remettre en cause les négociations tant qu'on n'est pas arrivé à une conclusion sur Chypre.
D'accord. Donc oui, donc différence parfois aussi du côté turc entre parole et acte. Cela dit, on peut comprendre aussi que faire des investissements de 60 millions ou milliards de dollars alors que la conclusion n'est pas assurée, ça a de quoi refroidir. Hein. Alors je vais passer la parole justement à propos de dollars.
Ces 60 milliards de dollars, c'est pas pour l'Union, c'est pour les Turcs eux-mêmes.
Oui, mais enfin bon, ils ont peut-être d'autres priorités.
Quand vous avez des pluies qui entraînent, je ne sais pas, 40-50 morts parce que l'environnement n'est pas respecté à Istanbul,
oui.